La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième moment de nos émissions spéciales révision du bac de français. Nous parlons aujourd'hui de la thématique des réécritures à travers l'exemple de Robinson Crusoe dans une émission de Laurent Travagli-Chanal, Laurence Genepin, Didier Pinault et Anne-Vanessa Prévost, réalisée par Laurence Millet et avec à la console Élise Leu. Le bac de français qui aura donc lieu dans l'après-midi du 18 juin prochain, pas de programme à proprement parler, mais des objets d'études travaillés toute l'année et qui servent de base aux sujets proposés. Hier par exemple, nous sommes revenus sur la thématique du personnage de roman, c'était avec le professeur de français Jean Bardet. Nous avons également parlé du commentaire de texte avec Véronique Anglard qui a consacré un livre à cet exercice chez Armand Collin. Jeudi, nous ferons un panorama des différents courants littéraires depuis Rabelais et Ronsard jusqu'au nouveau roman. Et enfin demain, c'est à Madame de Lafayette que nous nous intéresserons et en particulier à sa nouvelle La Princesse de Montpensier, œuvre au programme des terminales littéraires. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en seconde partie, après les conseils méthodologiques de Marie-Sandrine Lamoureux, nous écouterons Hélène Merlin-Cageman traiter de l'exercice de la dissertation. Elle nous proposera une méthodologie et un plan pour répondre à la question « Pensez-vous que toute création littéraire soit, d'une certaine manière, une réécriture ?» Mais dans la première partie, et pour parler de manière plus globale de la question justement des réécritures, nous sommes avec Marianne Jéglé, romancière, auteure de Vincent qu'on assassine, un roman sur Van Gogh à Auvers-sur-Oise, publié en 2016 aux éditions Gallimard. Elle a également rédigé le dossier consacré à Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel Tournier dans la collection Folio Plus, ce livre réécrit justement à partir du personnage de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Quand on lit Robinson Crusoe, on a le sentiment qu'on doit avoir toujours quand on lit sur ce thème de l'homme solitaire et de l'île déserte, c'est qu'on a envie de le réécrire.
Parce que chacun a sa conception de l'île déserte, de la
solitude. Ah, c'est sûr. Moi, je crois que c'est fondamental. Je crois que si chacun doit écrire un livre, il doit commencer par écrire un Robinson Crusoe. Je crois que c'est le livre fondamental pour tout un chacun. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'intérêt du thème, n'est-ce pas ? Chacun se dit, bon, le voilà sur une île déserte, il fait ceci, il fait cela, moi, qu'est-ce que je ferais à sa place ? Et on essaye d'imaginer ce qu'on ferait à sa place.
Bonjour Marianne Jéglé.
Bonjour.
Est-ce que vous croyez, comme Michel Tournier qu'on vient d'entendre, que tout romancier devrait, avant d'écrire son premier roman, se confronter finalement au mythe de Robinson et écrire avant toute chose, ce que vous n'avez d'ailleurs pas fait, sa propre Robinsonade ?
Alors je ne pense pas que chaque romancier devrait faire ça, mais une chose est certaine, c'est qu'un très grand nombre de romanciers l'ont fait, puisque on compte, je crois, plus de 86 romans dans lesquels figure le mot Robinson. En d'autres termes, ce roman-là a eu une postérité absolument inouïe. Et pas seulement en son siècle, mais encore aujourd'hui. Et comment dire, que ce soit en littérature ou au cinéma, l'histoire de Robinson, elle continue d'inspirer. J'en veux pour preuve le film de Robert Zemeckis en 2000. Seul au monde, qui racontait d'une façon très modernisée le naufrage sur une île déserte d'un employé de la Federal Express.
Est-ce que vous pensez que écrire un premier roman, c'est forcément réécrire le livre d'un écrivain qu'on a déjà lu ou plusieurs livres de plusieurs écrivains qu'on a déjà lus ?
Alors, non, je ne pense pas. Je pense que la plupart des romanciers commencent par écrire quelque chose qui soit du côté de leur biographie personnelle, de leur propre parcours. Il me semble que c'est plus courant. Maintenant, quant à savoir si quand on écrit Est-ce qu'on réécrit à cette question-là? Indubitablement, la réponse est oui, me semble-t-il.
On ne peut que réécrire.
On ne peut que réécrire, je crois.
On en parlera aussi en seconde partie. Alors, cette question des réécritures, c'est donc, je le disais, l'un des objets d'étude des classes de première. Pourquoi est-ce que c'est un thème fécond, selon vous, pour les lycéens? En quoi ça permet, finalement, de mieux comprendre comment on écrit, comment on devient écrivain, de mieux comprendre la littérature?
Ben ça, je dirais qu'en fait, ça leur permet de prendre conscience du fait que les textes répondent avant tout à d'autres textes. Il ne s'agit pas tellement, c'est Borges qui disait ça, il ne s'agit pas tellement de parler du monde, les textes parlent surtout d'autres textes. Et me semble-t-il, ça leur permet de construire une lecture plus consciente de la façon dont les textes se répondent entre eux. Voilà. Mmh. Et c'est...
Donc on ne parle jamais de la réalité, on ne parle que de la réalité à travers la littérature.
Il me semble que les textes parlent du monde, hein, indubitablement, mais ils sont très souvent des réponses à d'autres textes.
Et alors là, en l'occurrence, Michel Tournier a écrit un livre qui était une réponse à celui de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Il faut en parler un petit peu quand même de ce roman, même s'il est célèbre, de Daniel Defoe et raconter son origine. Alors, il vient d'un fait divers. Un fait divers, ça n'est rien d'autre qu'une histoire finalement qu'on vous raconte. Daniel Defoe, finalement, il a réécrit une histoire qu'on lui avait racontée.
Exactement, exactement. Daniel Defoe a réécrit le réel. Il a réécrit un fait divers, l'histoire d'un marin écossais, Selkirk, qui, comme il s'entendait très mal avec le commandant de bord, a été déposé sur une île déserte au large des côtes chiliennes, une île qui s'appelle Masatiera. Et il y a vécu 4 ans.
4 ans et 4 mois. Même.
4 ans et 4 mois, absolument seul. Et avant d'être récupéré par un navire, conduit par, ce qui est extraordinaire, le même capitaine qui l'avait déposé et ramené au monde civilisé, si on peut dire, où il a raconté son aventure. Et c'est de cette aventure que Daniel Defoe s'est inspiré pour écrire un roman qui a immédiatement eu un énorme retentissement. Mmh. Alors, Defoe ne s'est pas contenté de transcrire les récits qu'a pu faire de son aventure le marin Selkirk. Il a énormément modifié, ajouté, transformé ce fait divers pour en faire un grand roman d'aventure. Il a modifié un certain nombre de données, il a modifié le lieu où se déroulait le roman, il l'a situé dans les Caraïbes, il a modifié la durée du temps passé sur cette île, puisqu'il fait passer plus de 28 années à son personnage Robinson Crusoe sur son île déserte. Il l'a modifié surtout parce que il lui a adjoint un second personnage puisque il lui a fait rencontrer Vendredi, ce qui pour le coup est totalement inventé. En d'autres termes, il s'est pas contenté de reproduire, il a énormément élaboré, enrichi, transformé, et voilà, il a véritablement fait son œuvre à partir de ce matériau que la réalité lui avait fourni.
Vendredi qui devient son compagnon et son serviteur. Et l'enjeu finalement du livre, c'est la rencontre de ces deux hommes.
Pas seulement, me semble-t-il. Je pense que c'est davantage un enjeu dans le livre de Michel Tournier. Moi, il me semble que dans la version de Daniel Defoe, en réalité... Ce qui compte avant tout, c'est l'ingéniosité dont fait preuve Robinson Crusoe, qui en fait reconstitue la civilisation à partir d'une terre vierge et d'une nature entièrement sauvage. C'est-à-dire en fait, il reparcourt et il fait reparcourir à son lecteur avec lui toutes les étapes de la civilisation, c'est-à-dire il recrée l'agriculture, il recrée l'élevage. Il recrée des instruments pour mesurer le temps, il élabore une espèce de gouvernement de l'île dont il se nomme gouverneur, il recrée les lois, il recrée l'architecture. Et c'est seulement une fois qu'il a fait tout ce parcours-là que arrive vendredi, c'est vraiment dans la deuxième partie du texte. Et dans le fond, vendredi, dans le texte de Defoe, me semble-t-il, n'est qu'un comparse qui permet à Robinson Crusoe d'asseoir sa domination sur cette île qu'il a totalement civilisée à sa manière, enfin à la manière de la civilisation occidentale. C'est-à-dire il l'a mise sous contrôle en réalité.
Donc c'est un livre qui paraît en 1719 et en 1967, Michel Tournier fait lui paraître son roman Vendredi ou Les Larmes du Pacifique. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait.
Robinson s'étendit voluptueusement sur sa couche. C'était la première fois depuis des mois que le rythme obsédant des gouttes s'écrasant une à une dans le bac cessait de commander ses moindres gestes avec une rigueur de métronome. Le temps était suspendu. Robinson était en vacances. Il s'assit au bord de sa couche. Taine vint poser amoureusement son museau sur son genou. Ainsi donc la toute-puissance de Robinson sur l'île, fille de son absolue solitude, allait jusqu'à une maîtrise du temps. Il supputait avec ravissement qu'il ne tenait qu'à lui désormais de boucher la clepsydre et ainsi de suspendre le vol des heures. Il se leva et alla s'encadrer dans la porte. L'éblouissement heureux qui l'enveloppa le fit chanceler et l'obligea à s'appuyer de l'épaule au chambranle.
La compagnie des auteurs sur France Culture et cette lecture par François Chaumette d'un extrait donc de Vendredi ou les Larmes du Pacifique. On sent le bonheur de Robinson qui découvre qu'il peut finalement échapper à la pression du temps parce que finalement l'île pour le Robinson de Tournier, elle s'avère relativement hospitalière. D'ailleurs, elle s'appelle Speranza cette île. Elle ne s'appelle pas l'île du désespoir, comme dans le livre de Defoe. La vision de l'île, de l'un et de l'autre, comment les caractériser, Marianne Jeglé?
Alors, elles sont assez différentes. Elles sont assez différentes. Chez Daniel Defoe, Robinson Crusoe appelle cette île, son île, l'île de la désolation, puisqu'en réalité, il y est prisonnier. Et il est... Oui, c'est une île sur laquelle il doit prendre le contrôle de la nature. C'est également ce que s'efforce de faire le Robinson de Tournier dans la première partie du texte. Mais son île va être, oui c'est vrai, beaucoup plus hospitalière. Et surtout, en fait, l'île va devenir un peu un personnage à part entière. Il va l'appeler Speranza. Il va entretenir avec elle une relation presque amoureuse à un moment donné. Elle va être la mère au sein de laquelle il se blottit. Elle va être et pour finir, il va nouer avec elle, grâce à l'intermédiaire de Vendredi, une relation totalement différente. C'est-à-dire qu'en fait, Robinson va se réconcilier avec la nature après avoir, dans un premier temps, tenté lui aussi d'en prendre le contrôle d'une façon très occidentale, c'est-à-dire en lui faisant produire des moissons, en lui faisant nourrir du bétail, en la mettant au service de son organisation rationnelle d'homme occidental.
Donc le sujet, là aussi, c'est la question de la civilisation, comme chez Defoe, mais d'une autre manière.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que Tournier pose la même question, me semble-t-il, que Defoe, mais il y répond, ou en tout cas il la pose d'une façon complètement différente, et ça a à voir, ou plutôt ça montre comment la même question posée par des auteurs différents, mais aussi à des époques différentes, donne des résultats profondément différents. C'est-à-dire que le Robinson de Daniel Defoe est tout à fait exemplaire de son époque, dans la mesure où il s'agit à ce moment-là de D'une période pré-industrielle où les Occidentaux vont s'efforcer de conquérir les nouveaux territoires, les Amériques, les Indes, et vont s'en emparer, y compris en les pillant de façon assez éhontée, en mettant, en réduisant les populations en esclavage ou en les combattant de façon très dure. Voilà, et cela, je dirais, sans scrupule, sans état d'âme, persuadés qu'ils leur apportent la civilisation, ce faisant. Voilà, donc ça, c'est d'une certaine manière la relation que le Robinson de Daniel Defoe montre à la planète Terre, en fait, et aux nouveaux territoires qui sont conquis par les Occidentaux au XVIIIe. Et quant à Tournier, lui, qui écrit dans les années 60, à un moment donné où la colonisation commence à être mise en question, évidemment, il ne peut pas poser les mêmes questions, c'est-à-dire la relation de l'homme à la nature et puis de l'homme occidental aux autres territoires. Il peut pas la poser de la même question. Il va la poser avec un recul et il va la poser avec une distance critique.
Une distance critique qui est aussi la distance critique du philosophe, parce que Michel Tournier a fait des études de philosophie, d'ailleurs avec ses camarades Deleuze et Butor. Il a raté son agrégation, c'est pour ça qu'il n'avait finalement pas enseigné. Mais au fond, la philosophie, et peut-être en particulier la philosophie du XVIIIe, celle de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau. Je rappelle que le XVIIIe, c'est le moment où paraît le Robinson de Defoe. Ben, cette philosophie-là, elle est au cœur de son texte, au cœur de son roman.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on se pose la question au XVIIIe siècle, comment dire, la question du bon sauvage, ou plus exactement du qu'est-ce que c'est qu'un sauvage, qu'est-ce que c'est qu'un homme civilisé. Elle se pose à tous les philosophes qui la posent, alors que voilà, l'Occident est en train d'exporter sa civilisation, sa religion, sa façon de fonctionner. Et Tournier va reprendre cette question-là d'une certaine manière en se demandant si ce que la civilisation occidentale a apporté avait véritablement la valeur qu'on prétendait apporter.
Et là où c'est très intéressant, c'est ce regard justement rétrospectif sur une œuvre qui confronte déjà un occidental et un indigène. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que chez Defoe, le titre, c'est Robinson, alors que chez Tournier, le titre, c'est Vendredi. Vendredi ou les limbes du Pacifique. Donc, dans la confrontation, finalement, de ces deux textes, il y a déjà comme une espèce de thèse qui est annoncée au lecteur.
Tout à fait, tout à fait. Tournier, il inverse la perspective de Defoe en donnant la primauté à celui qui n'était qu'un comparse dans le texte de Defoe. Vendredi était un serviteur docile et qui, à la fin du texte, accompagnait son maître qui retournait vivre en Occident, dans une civilisation occidentale. Et Vendredi, évidemment, n'avait pas d'autre choix que de le suivre très docilement, ce qu'il faisait très volontiers. Et en revanche, dans le texte de Michel Tournier, donc c'est lui le personnage principal, et alors que au début il est soumis à l'ordre que lui impose Robinson Crusoé, à l'ordre que celui-ci impose à l'île d'abord et puis à son domestique, Vendredi secoue ce joug en fait, et il fait littéralement exploser l'ordre que Robinson Crusoé a créé sur son île, c'est-à-dire que il met le feu à des réserves de poudre, ce qui fait exploser la forteresse construite par Robinson. À partir de ce moment-là, tout le système rationnel, méthodique
de l'Occident,
en fait, l'Occident d'une certaine manière, est de façon métaphorique dynamité par Robinson, qui va enseigner par Vendredi, qui va enseigner à Robinson un autre mode de vie, une autre façon d'être relié à la nature.
Pour nous,
c'est le héros de la solitude. Il est évident que pour Daniel Defoe, c'était autre chose, et il est évident qu'il est possible que dans 2 siècles et demi, on refasse encore un Robinson Crusoe, et ce sera encore autre chose qui nous est impossible de prévoir.
Mais justement, qu'est-ce qui vous plaît dans le Robinson Crusoe de Daniel Defoe ?
C'est un héros essentiellement moderne. Je vous ai parlé de la solitude qui est une chose moderne. Il n'y a pas que ça. Vous avez par exemple le bricolage. Robinson Crusoe, c'est le roi des bricoleurs. Ça dérive d'ailleurs de la solitude. Quand on est seul, il faut bricoler. Faites-le vous-même, n'est-ce pas ? Puisque personne d'autre ne peut le faire à votre place. C'est aussi le héros du soleil, de la plage, de la vie au grand air, de la pêche, de la chasse. Toutes choses qui sont essentiellement, comme vous l'avez dit au début de cet entretien, des obsessions de l'homme moderne. C'est le héros moderne par excellence. Il a gagné, il a perdu, il a évolué avec tous les temps. Pour Jean-Jacques Rousseau, qui écrivait 40 ans après Daniel Defoe, il est l'annonciateur d'une société nouvelle.
L'esclavage, enfin, au sens très large du terme.
C'est ça, n'est-ce pas ? Prenons 100 ans plus tard, Jules Verne, dans L'île mystérieuse, en fait l'ingénieur de la fin du 19e siècle, qui invente tout, puisque son Robinson Crusoe est dans L'île mystérieuse, en arrive à fabriquer non seulement des métaux, mais de l'électricité, et à installer le télégraphe sur son île, en étant parti de rien du tout, les mains dans les poches, n'est-ce pas ? Pour Jean Giraudoux, dans Suzanne et le Pacifique, c'est une jeune fille de Bellac, qui, avec tous les charmes de Giraudoux, est abandonnée sur une île déserte et revit à sa façon l'aventure de Robinson. Paul Valéry, dans Les Histoires brisées, avait imaginé un Robinson qui était le sien. Enfin, c'est vraiment le moule dans lequel on peut couler ses préoccupations les plus actuelles.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, Marianne Jéglé, si on comprend bien ce que dit Michel Tournier, finalement, écrire et réécrire un Robinson, c'est toujours écrire sur la société de son temps et peut-être même sur la modernité de son temps.
Oui, tout à fait. Michel Tournier est quelqu'un qui écrit énormément sur les mythes et qui se les approprie à chaque fois en y apportant une version très personnelle. Et c'est peut-être ça le mythe, hein. C'est une histoire qui a priori n'a pas d'auteur défini et dont peut-être il faut constamment refaire le parcours, qu'il faut sans arrêt réécrire afin que le mythe ne meure pas, c'est-à-dire afin qu'il parle toujours de nous, de notre temps, de notre société et des questions que nous nous posons.
Donc tous les personnages qui prêtent à réécriture sont forcément des personnages mythiques ?
Ben, je pense que non, je pense que tous les personnages se prêtent à réécriture, mais le mythe s'y prête particulièrement bien. Parce que, en réalité, d'une part, il n'a pas d'auteur, donc on peut d'autant plus facilement se l'approprier. Et peut-être aussi que le mythe est du côté de l'archétype, alors que les personnages de romans sont en général plus singuliers et donc se prêtent peut-être moins à la réécriture. Encore que on voit bien avec Meursault contre enquête, par exemple, le livre de Kamel Daoud, que on peut très bien réécrire des personnages de romans comme le héros de L'Étranger.
Vous avez l'impression que ça se multiplie justement ce phénomène des réécritures?
C'est possible. Peut-être qu'on hésite de moins en moins à produire ce genre de romans qui sont littéralement des réponses à des romans antérieurs. Peut-être que à cause du 19e et d'une espèce de culte de l'originalité que celui-ci a édifié, peut-être qu'on a hésité un temps à s'inscrire aussi directement dans une filiation et dans une réponse. Et peut-être que aujourd'hui on hésite moins à le faire, s'adosser à un livre antérieur.
Et en même temps, est-ce que ça n'a pas quelque chose d'excluant finalement ? Parce qu'on peut très bien lire le Robinson de Tournier sans avoir lu le Robinson de Crusoe.
Ah, mais je pense que c'est d'autant plus savoureux quand on a le Robinson de Defoe en tête. Mm-hmm. C'est comme si on avait une lecture, on pouvait faire une lecture palimpseste, c'est-à-dire on lit plusieurs livres en même temps. Et la lecture, elle est d'autant plus riche et d'autant plus profonde.
C'est un roman d'initiation aussi, ce roman de Michel Tournier. C'est une quête spirituelle.
Tout à fait. Et c'est là où Tournier, il donne une réponse totalement différente à celle de Defoe. C'est-à-dire que le personnage de Defoe n'a aucun état d'âme, à aucun moment. Il est, lui, uniquement confronté à des problèmes techniques, comment faire du feu, comment produire du blé, etc. Alors que le Robinson de Michel Tournier, lui, d'une part, il souffre de la solitude, et d'autre part, il connaît une initiation, c'est-à-dire qu'en fait, son système de valeurs, celui avec lequel il est arrivé sur l'île, qui est un système qu'on pourrait qualifier d'apollinien, disons, c'est-à-dire des valeurs d'ordre, des valeurs de stabilité, des valeurs de maîtrise, il est progressivement abandonné au profit d'un autre système de valeurs qui est celui que Vendredi lui enseigne sans discours, lui enseigne progressivement, qui est, disons, un système, on pourrait dire, dionysiaque, c'est-à-dire beaucoup plus du côté du plaisir, de la subversion, de l'absence d'ordre.
Et les écrivains, on le sait, ce sont des sismographes de la société en train de bouger. Et c'est vrai que quand ce roman paraît, on est tout de même à l'orée des années 70. Et il y a quelque chose de presque New Age, un rapport à la nature qui préfigure l'écologie aussi.
C'est vrai.
Dans ce livre-là de Tournier. Là encore, c'est vraiment une réécriture ancrée dans un état d'esprit du moment.
Tout à fait. Et ce qui est extraordinaire avec Michel Tournier, c'est que non seulement il réécrit Defoe, mais surtout il se réécrit lui-même. C'est ça qui est extraordinaire avec lui, c'est-à-dire qu'il va donner deux autres versions de son propre roman. C'est ça qui est fou.
Alors une version pour enfants.
Une version pour enfants, Vendredi ou La vie sauvage. Et il en écrira même une troisième version dans une nouvelle du Coq de Bruyère qui s'intitule La fin de Robinson. C'est-à-dire qu'en fait, Michel Tournier ne cesse de s'interroger sur le personnage de Robinson et de Vendredi, et il se réécrit lui-même. C'est ça qui est absolument fascinant.
Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous, ce besoin de revenir en permanence, d'une autre manière, sur le même personnage?
Ça montre que, à mon avis, il n'en avait pas fini avec ce personnage-là. C'est-à-dire que ce personnage-là continuait de l'habiter, de le hanter, d'être un questionnement pour lui. Et d'autre part, Michel Tournier, il l'a dit assez clairement, il n'était, dans le fond, après coup, pas tellement satisfait de la première version de son roman. Ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement les auteurs réécrivent leurs textes quand ils écrivent, c'est-à-dire qu'ils se corrigent, ils modifient, ils coupent, ils ajoutent, etc. Mais même, parfois, après avoir publié, après avoir gagné des prix, après avoir eu des milliers de lecteurs, eh bien, il arrive que l'écrivain travaille toujours son texte. C'est ça qui est impressionnant. Jusqu'où réécrire on peut se poser la question.
Mais réécrire, c'est peut-être aussi toujours un rapport au lecteur. Là, il réécrit son livre pour les enfants. Parce que quand on écrit un livre, on pense toujours à celui qui va le lire. Donc, il y a ça aussi.
C'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant, et ça, il l'a dit très clairement, que Vendredi ou La vie sauvage serait une espèce de version un petit peu light de Vendredi ou Les limbes du Pacifique. Il l'a dit lui-même. Il n'existe pas de livre pour enfants. Parfois, on écrit assez bien, suffisamment bien. Le livre est suffisamment bon pour qu'il puisse être lu aussi par les enfants, la jeunesse, en fait.
Donc, est-ce qu'il a expliqué comment il s'y est pris pour réécrire son propre livre? Est-ce qu'il a mis de côté Vendredi ou Les Lames du Pacifique pour écrire Vendredi ou La vie sauvage? Est-ce qu'il est reparti de zéro?
Alors, il l'a dit lui-même, il considérait que son roman était trop gras, trop lourd, trop philosophique. Et il a cité un poète sicilien qui dit, au fond de chaque chose, le poète sicilien Lanza del Vasto, qui dit, au fond de chaque chose, un poisson nage, poisson, de peur que tu ne sortes nu, je te jetterai mon manteau d'image. Et pour lui, cela signifie qu'au fond de chaque chose, il y a une vérité métaphysique. Et lui, il dit « vérité métaphysique, de peur que tu ne sortes nu, je te jetterai une histoire ». Or, le manteau d'image, pour lui, c'est l'histoire qu'il invente. Et dans le cas de Vendredi ou les Lames du Pacifique, il considérait que le manteau d'image était insuffisant, qu'on voyait un peu la philosophie à travers. Et donc, il l'a réécrit. Et pour lui, son œuvre véritablement aboutie, c'est Vendredi ou la vie sauvage. Mmh. Donc, c'est de la version pour la jeunesse.
Réécrire, c'est toujours créer.
Bien sûr, bien sûr. C'est ajouter de soi.
On va rester sur ce mot-là. Merci beaucoup, Marianne Jéglé. Je rappelle que vous avez donc rédigé le dossier de Vendredi ou les Lames du Pacifique de Michel Tournier dans la collection Folio Plus Classique chez Gallimard. Je signale également votre ouvrage Vincent qu'on assassine. C'est un roman publié en 2016 chez Gallimard et depuis mars dernier, on peut le trouver en folio. Dans quelques minutes, on va passer aux travaux pratiques avec Hélène Merlin-Cageman qui va nous proposer un exemple de dissertation littéraire sur ce thème toujours des réécritures. Mais tout de suite, de nouveaux conseils. Conseil méthodologique pour les lycéens de première avec Marie-Sandrine Lamoureux, professeure au lycée Joliot-Curie de Nanterre.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour Marie-Sandrine Lamoureux.
Bonjour.
Alors hier, vous nous avez parlé de la question de corpus et aujourd'hui c'est sur l'écriture d'invention que vous nous proposez vos lumières. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, il s'agit du sujet le plus choisi, hélas, aurais-je tendance à dire, par les élèves. Pourquoi ? Parce que en fait, il requiert beaucoup de technicité. Donc les élèves se réfugient dans ce sujet parce qu'on leur demande depuis le plus jeune âge de raconter des histoires. Et ils oublient qu'en réalité, il va falloir d'abord comprendre un texte, en percevoir les enjeux, ainsi que percevoir les caractères singuliers de l'écriture du texte, et ensuite seulement rédiger son propre texte, soit en s'appropriant certaines de ses caractéristiques, soit en s'en éloignant. Donc c'est un sujet qui requiert une certaine technicité à l'écrit.
Est-ce qu'on a le droit de faire du pastiche, par exemple, par rapport au texte qui nous est donné ?
On peut le demander. Il faut vraiment la première étape.
Il faut que ce soit demandé. On n'a pas le droit de son propre chef de se moquer, par exemple, en pastichant le texte de référence.
Non. Enfin, il faut vraiment lire attentivement les consignes qui sont très précises. Mmh. D'ailleurs, l'un des risques de ce sujet, c'est de mal lire. Parce que on peut nous demander de raconter, de décrire, d'argumenter, d'écrire une lettre. Ça peut être toutes sortes de textes. C'est pour ça que c'est peut-être un petit peu contre-productif de penser que c'est juste invention. Mmh. C'est pas seulement inventer, c'est écrire à partir de.
Alors, le barème, c'est 16 points pour les séries générales et 14 pour les séries technologiques. Ça veut dire qu'il faut y consacrer beaucoup de temps ou au contraire aller vite ?
Je dirais bien 3 heures sur les 4 heures de l'épreuve et surtout ne pas négliger l'étape du brouillon, qui est essentiel en l'occurrence. C'est en fait cette étape. Imaginons par exemple le sujet soit un dialogue argumentatif. On va imaginer les deux personnes qui dialoguent. On va les placer dans un contexte parce que on va imaginer par avance ce qu'on veut que le lecteur ressente. Et puis on va poser sur son brouillon le raisonnement de chacun des deux personnages qui sera mis en scène dans ce dialogue argumentatif. Donc on ne doit pas négliger cette étape du brouillon, c'est même la plus longue. Et d'un autre côté, on ne doit pas rédiger dès le brouillon, sinon on n'a pas le temps en 3 heures.
Oui, il faut marquer uniquement les étapes finalement par lesquelles on va passer et rédiger ensuite au propre. Qu'est-ce qu'il faut éviter, Marie-Sandrine Lamoureux ?
Je dirais qu'il faut penser d'abord qu'on va soi-même être lu, donc rédiger dans une langue suffisamment maîtrisée, pour qu'on ait plaisir à lire et qu'on oublie la technique au profit de ce qui se passe dans le texte. Tout comme on le fait lorsqu'on lit un passage de texte nous-mêmes. Et puis, se rappeler qu'il y a une visée précise, des consignes précises. Ne pas s'éloigner des consignes qui ont été données. Par exemple, si on demande une lettre, il va y avoir une certaine forme attendue.
Mmh. Et puis, évidemment, la question que se posent les lycéens aujourd'hui, c'est comment s'y préparer. On peut imaginer que soi-même, on peut faire des récits d'invention chez soi dans l'optique du bac.
Je dirais d'abord apprendre à repérer les caractéristiques d'un texte en amont. Et ça, on s'y prépare tout au long de l'année dans les différents exercices du baccalauréat. C'est pas invention d'un côté, commentaire de l'autre, question sur corpus encore d'un autre côté. Il faut repérer les caractéristiques d'un texte pour être capable ou de les reproduire ou de les pasticher, comme vous le proposiez tout à l'heure, ou de placer un passage de dialogue au milieu d'un texte qu'on nous a proposé. Donc s'entraîner, oui, se relire, être relu par d'autres et lire forcément, parce que nous sommes des êtres d'imitation, on apprend d'abord à faire des gammes avant de composer.
Et on peut lire ce qu'on veut dans le domaine de la fiction ?
Alors je dirais qu'il faut surtout lire, d'abord lire, prendre plaisir, et puis après petit à petit, et plus on devient lecteur et plus on peut varier les plaisirs.
Merci beaucoup Marie-Sandrine Lamoureux, puis on vous retrouve encore demain pour parler cette fois de l'oral du bac. À demain. Et France Culture passe le bac toute la semaine dans plusieurs émissions de notre chaîne. Nous nous attaquons à présent à l'épreuve de la dissertation de français. Pour ce faire, nous avons demandé à Hélène Merlin-Cajman, ancienne enseignante du secondaire, aujourd'hui professeure de littérature à l'université Paris 3, de venir nous parler justement de l'exercice de la dissertation et d'en faire une pour nous. On lui doit en effet le livre intitulé « La dissertation littéraire » édité auprès Sorbonne Nouvelle, qui peut servir aussi bien aux lycéens qu'aux étudiants. Bonjour Hélène Merlin-Cajman.
Bonjour.
Alors, nous vous avons proposé de vous attaquer au sujet suivant, qui est en lien évidemment avec la première partie de l'émission. Je vous le soumets. Pensez-vous que toute création littéraire soit d'une certaine manière une réécriture ? Alors, on va travailler avec vous ce sujet, enfin, on va surtout vous écouter nous en parler, mais d'abord peut-être une question d'ordre général, quel est l'intérêt finalement de la dissertation, de l'exercice de dissertation ?
Je vous remercie de me poser cette première question, puisque la dissertation est malheureusement un exercice très décrié, qu'il est depuis très longtemps. Et
pour quelle raison ?
Alors, je dirais que le motif essentiel, il y en a, on pourrait déjà faire toute une émission rien que sur cette question, donc je voudrais aller au plus court, c'est que on considère souvent que c'est un exercice artificiel. Artificiel, c'est trois parties, trois sous-parties. Il y a même une époque où il y avait encore trois sous-parties par sous-partie.
Mais c'est pas obligatoire, c'est plan quand même. Avec autant de sous-parties ici.
Alors, je pense qu'il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est une dynamique qui a sa logique et son intérêt, et qu'il faut mieux s'y plier, parce qu'une dissertation où on n'arrivera pas, où on séchera sur la troisième partie, ou bien on séchera, ce qui est encore plus banal, disons, sur la troisième sous-partie de chaque partie.
Oui.
Il n'empêche que on aura incorporé une dynamique qui permettra de faire une meilleure dissertation en deux parties que si on n'avait jamais, si on ne s'était jamais exercé à faire une dissertation en trois parties. Alors j'explique pourquoi. Je dirais que donc pourquoi ça me paraît être un très bon exercice, c'est que je ne crois pas que la dissertation soit artificielle, ou plus exactement, elle peut l'être comme absolument n'importe quel exercice en vérité. Mais plutôt que de parler d'artifice, il faudrait comprendre qu'il s'agit d'une forme. Et que c'est une forme qui a comme immense avantage de faire comprendre rapidement à des élèves, à des étudiants, qu'est-ce que c'est que penser. C'est une forme qui, bien sûr, si on s'y abîme, si on fait ça toute sa vie, ben on arrête de penser. Mais elle indique très vite qu'est-ce que c'est que penser. Moi, je me souviens d'avoir enseigné, bon, j'ai enseigné cet exercice même en classe de troisième à l'époque où il y avait ce qu'on appelait résumé discussion. Donc il y avait la discussion et pour apprendre à faire une bonne discussion, en fait, j'apprenais le plan, j'enseignais le plan en trois parties. Mais je me souviens d'une élève de seconde, ma première expérience de lycée, qui était outrée parce que elle pensait que, elle croyait, elle voulait que si on lui demande que pensez-vous d'eux, elle n'est plus qu'à dire son opinion. Mmh. Et elle était outrée qu'elle doive passer par une autre opinion que la sienne.
Mmh. Or, vous dites bien dans votre livre qu'il ne s'agit pas, il ne s'agit jamais de donner son opinion dans la dissertation.
C'est-à-dire que surtout, tant qu'on ne s'est pas affronté à une objection, à une pensée adverse, à autre chose que sa propre opinion, tant qu'on n'a pas pris au sérieux autre chose que son opinion, l'opinion en question est un préjugé. Donc ce que j'explique désormais aux élèves autrefois, aux étudiants maintenant, c'est que tant qu'on ne sait pas penser dans le « oui mais », qui n'est pas le « oui non », mais le « oui mais », et déjà j'ai les deux parties, les deux premières parties, je ne pense pas, j'exprime des préjugés. Et je dirais en plus que ce qui est tout à fait remarquable, ce qui inquiète souvent les élèves ou les étudiants, c'est mais qu'est-ce qu'on attend de nous exactement avec ces trois parties? Forcément, le prof, il a quelque chose dans la tête. Les meilleures dissertations sont celles qui se ressemblent le moins et les plus mauvaises, celles qui se ressemblent le plus, parce que ce sont celles qui sont pleines de poncifs.
J'ai envie de dire oui, mais, Madame Merlin-Cajman, les élèves, vous leur dites aussi... qu'ils doivent écrire une dissertation qui est personnelle. Comment tracer la limite entre ce que on appelle l'opinion et ce qu'est une dissertation qui reste très personnelle, ce qui est aussi demandé aux élèves?
Absolument. Alors justement, en même temps, c'est que l'expérience prouve, comme je viens de le dire, que les meilleures dissertations sont celles qui se ressemblent le moins, ce qui prouve que ce sont les plus personnelles. Mmh. Et il n'empêche que ce sont celles aussi qui ont...
Mais qu'est-ce qui fait une dissertation personnelle alors? C'est la culture générale, c'est quoi?
Non, je pense que c'est... je pense que plus on pense, plus les cheminements de la pensée sont originaux.
Donc une habitude de la réflexion, c'est ça qui fait qu'on
et après, c'est un mélange
peut être personnel.
Ce que vous venez de dire, ce sont les exemples, c'est la culture, les exemples sont ceux que l'on s'est approprié soi... Les agencements sont ceux qui vous intéressent. Et puis, de toute façon, une fois qu'on a fait oui, mais, bon, on a un sujet, on va dire en gros oui au sujet, on peut commencer par le non, mais on va dire oui. Ensuite, on dit pas non, parce qu'il n'est pas question de se contredire, mais dire mais. On a buté à la fin de la première partie sur des contradictions, une objection, on a mais.
Alors juste avant de revenir là-dessus, sur cette idée du plan personnel qui forcément est aidé par la culture générale et par l'habitude qu'on a de réfléchir, est-ce qu'on peut néanmoins réussir une bonne dissertation, même si on n'est pas justement dans un cadre, par exemple, familial privilégié qui nous permet justement d'avoir une habitude de culture générale, par exemple?
Écoutez, la raison principale, je crois, pour laquelle je défends la dissertation, c'est que c'est précisément un exercice qui permet, à mon avis, le plus rapidement d'acquérir une méthode de pensée qui, du coup, permet de réussir un exercice qui ne soit plus simplement, qui ne repose plus simplement sur la culture acquise. Une bonne dissertation qui passe bien par la compréhension du plan et l'application de la logique du plan ne repose plus sur le bien écrire, par exemple. Le bien écrire, contrairement à l'écriture d'invention dont on vient de parler, dont qu'on vient d'évoquer là, il y a deux secondes. Mm-hmm. L'écriture d'invention, je pense que quand même, là, c'est difficile d'y réussir sans une habituation culturelle par la famille, par la lecture. Là, non. Moi, je l'ai enseigné, la dissertation, dans le nord de la France, dans un lycée complètement défavorisé. Et ça marchait. We'll be right back.
Et vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture. On révise le bac de français. Et oui, avec vous, Hélène Merlin-Cageman. Pensez-vous que toute création littéraire soit, d'une certaine manière, une réécriture? C'est à vous. Comment avez-vous répondu à cette question?
Alors d'abord, précisément, en comprenant qu'on ne me demande pas de répondre par oui ou par non, simplement, à cette question. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire trois parties qui illustre soit le oui, soit le non.
Le pensez-vous, évidemment, le induit en erreur.
Le pensez-vous induit en erreur, exactement. Donc, c'est une question qui doit se transformer en une affirmation. Toute création littéraire est, d'une certaine manière, une réécriture. Et je vais discuter. Et pour discuter, je vais commencer par envisager le oui ou le non. Et je vais ensuite montrer les limites, les contradictions, pour rebondir sur une deuxième partie. Et après, j'expliquerai comment on vient à une troisième partie. Là, il me semble que l'évidence, alors l'autre règle absolue, si je puis dire, c'est d'aller du plus simple au plus complexe, du plus évident au moins évident. Il me semble que là, le plus évident, d'ailleurs, on voit qu'il y a une contradiction, un paradoxe plutôt, c'est pas une contradiction, un paradoxe dans le sujet, c'est... une antithèse implicite entre création et réécriture. Mmh. Il y a bien des textes qui semblent être nommés précisément des réécritures, ce qui suppose qu'il y en a d'autres qui sont des écritures et non pas des réécritures.
Donc, une première question qui se pose, est-ce qu'on peut écrire à partir de rien?
Disons que je pense qu'il vaut mieux commencer par tenir ça pour une évidence. Mmh. Puisqu'il y a réécriture, il y a donc des textes qui sont des écritures. Mmh. Quand on a ce dossier autour de Robinson, on a d'abord un premier texte, qu'on a longtemps appelé texte source, qui, lui, n'apparaît pas comme une réécriture. Mmh. Donc, à mes yeux, je commencerai par, en première partie, dire il y a des textes qui ne sont pas des réécritures. Et après, je ne vais pas dire le contraire. Je vais dire mais il va falloir que je trouve... par quel angle je vais pouvoir passer au mais. Ça, c'est tout l'art des transitions, très important. À mon avis, un élève ne devrait jamais se lancer dans la rédaction de la dissertation finale sans avoir trouvé ces transitions. Et alors, une fois qu'on a oui, mais, si vous voulez, la logique de la troisième partie, c'est, bon, il nous manque un peu quelque chose, là. On a besoin d'un point de vue un peu de surplomb pour résoudre...
La fameuse synthèse.
Alors, on
vous
a beaucoup...
pas trop ce mot-là.
On a beaucoup dit synthèse, mais ça, c'est en référence vraiment au plan dialectique. Bon, je l'aime pas parce que ça suppose une maîtrise absolue, si vous voulez. On peut laisser ouverte des contradictions dans la perspective
dans qui s'appelle dépassement, synthèse. Dans le dépassement, qui serait la
un dépassement,
partie,
c'est un peu le dépassement. Voilà. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Et là, je propose de rebondir sur la question de la nouveauté. Mmh. Donc voilà, on a trois parties.
Donc pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène finalement à penser que c'est la nouveauté dont on pourrait parler dans cette troisième partie?
Qu'est-ce qui m'amène? C'est le fait que la nouveauté est une question qui, en un certain sens... justifie qu'on puisse dire que certains textes ne sont pas du tout des réécritures, puisqu'ils sont entièrement nouveaux, et que pourtant, en même temps, on peut dire des réécritures, comme d'ailleurs, comme Marianne Jaglet vient de l'expliquer remarquablement sur Tournier, que des réécritures sont aussi des ruptures. Donc c'est la question, si vous voulez, de la nouveauté ou de la rupture, qui réunit les deux perspectives en les plaçant sous un angle qui est un angle de qui est l'angle d'un concept majeur d'histoire littéraire, je dirais. Voilà.
Mmh. Alors ensuite, une fois que vous avez donc défini ces trois parties, que faites-vous? Est-ce que vous définissez immédiatement les sous-parties, c'est ça, ou est-ce que vous avez d'autres étapes avant cela?
Alors, il y a une règle d'or, pas de sous-parties sans un exemple au minimum. Mmh. Donc si je pense abstraitement à une sous-partie, que j'ai pas d'exemple, il faut que je l'élimine. Donc il y a deux démarches à faire en même temps.
Ça, c'est difficile d'avoir toujours quand même un bon exemple pour chacune des sous-parties.
À ce moment-là, on fera plutôt deux sous-parties que trois sous-parties si on n'a pas d'exemple pour une troisième sous-partie.
Mmh. Et comment ça se justifie? Est-ce qu'un argument abstrait ne pourrait pas suffire?
pour les deux sous-parties plutôt que les trois.
Est-ce qu'il faut toujours un exemple? Enfin, pour quelle raison finalement il faudrait toujours un exemple?
Ah, ça, c'est, là, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment une règle d'or. C'est que c'est une dissertation qui porte sur un ensemble. Alors, ça peut être. Là, c'est la création littéraire. C'est ce qu'on appelle le champ d'application du sujet. Je répète le sujet. Pensez-vous que toute création littéraire soit d'une certaine manière une réécriture? Ça signifie que vous n'allez pas devoir parler de cinéma, mais vous n'allez pas non plus devoir parler de la Bible, voilà, ni de recettes de cuisine. Ni, donc, votre champ d'application, tous les exemples vont être pris dans la création littéraire. Mmh. Et dans cette mesure, on vous demande toujours de réfléchir à partir d'exemples. Mmh. Les exemples, c'est une manière de montrer que vous connaissez l'objet dont on parle. Et c'est en fait une manière d'éclairer cet objet. Une dissertation est une manière d'éclairer l'objet dont on parle. Donc, oui, c'est la règle d'or. Un exemple par sous-partie au minimum. Du coup, en même temps que vous préparez vos sous-parties, je recommande aux élèves, sur notre feuille, de mettre à toute vitesse et en désordre toutes les idées qui peuvent, toutes les idées et les exemples qui peuvent venir à leur esprit. Les exemples, ça peut être aussi bien La Fontaine, réécrivant les fables de La Fontaine, réécriture des fables d'Ésope, les tragédies qui ont souvent le même nom. Pour ceux qui sont plus cultivés, si je puis dire, ou savants, Ulysse de Joy et Ulysse d'Homère. Robinson, évidemment, avec la Robinsonade. Bon, tout ce qui peut leur venir du côté des exemples de ce type, mais aussi du côté des concepts littéraires, donc le plagiat, le pastiche, la parodie, l'imitation, le modèle, voilà. Donc, et avec ça, en fait, des exemples vont leur venir aussi. L'invention de l'autobiographie, pourquoi on dit que la première autobiographie en France, c'est les Confessions de Rousseau. Et alors, les sous-parties s'organisent grâce à aussi ce réservoir de concepts, de notions de littérature et d'exemples qu'ils ont fait sur une feuille à côté.
Sachant que les sous-parties ne s'opposent pas les unes entre elles, les unes les autres, elles approfondissent l'une l'autre dans chacune à l'intérieur de sa partie.
Hein. Exactement, elles ne s'opposent pas comme les trois parties. Elles font un trajet, elles mènent d'une partie à l'autre.
Alors on arrive bientôt déjà à la fin de cette émission, il faut quand même parler de l'introduction et de la conclusion. Hélène Merlin-Cageman, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
L'introduction est très importante d'abord pour une raison tout à fait bête, c'est que c'est ce par quoi un lecteur prend connaissance de la copie. Donc vraiment, c'est important de la réussir. La conclusion, exactement pour une raison parallèle et inverse, ça va être le dernier contact du lecteur avec la copie, et souvent il va relire d'abord l'introduction et la conclusion pour évaluer l'ensemble. Alors l'introduction, il faut suivre pas à pas des règles d'or. Le sujet n'est pas présupposé connu, donc on ne doit pas dire ce sujet, voilà, il faut le citer à un moment donné littéralement. Mmh. En général, au bac, il est court. Ça pose d'autres problèmes quand il est long, mais en général, ce n'est pas le cas au bac. Il faut trouver ce que j'appelle une phrase d'appel très générale et qui, elle, va être soustraite à toute espèce de discussion. Moi, là, j'avais trouvé l'idée d'introduire sur le plagiat. On ne va pas parler du plagiat. Le plagiat, c'est un délit. La réécriture et le plagiat sont deux choses différentes.
Vous pouvez nous lire votre phrase d'introduction?
Au XVIIIe siècle est né le droit de la propriété littéraire. Le plagiat est interdit et poursuivi par la loi. Pourtant, la règle aura été longtemps d'imiter les anciens, et même après le XVIIIe siècle, des œuvres littéraires continuent d'être réécrites, comme le prouve l'exemple de Vendredi ou Les Lames du Pacifique de Michel Tournier, réécriture du roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. S'agit-il d'un défaut de la part des imitateurs ou du signe que l'invention totale, l'originalité parfaite sont en vérité impossibles? Toute création littéraire n'est-elle pas, d'une certaine manière, une réécriture? Donc j'ai fait en sorte de pouvoir amener naturellement le sujet, et je l'ai cité. Et en même temps, j'ai organisé ce qu'on appelle la problématique.
Et la conclusion?
La conclusion...
que vous avez rédigée également, car vous avez très bien travaillé pour nous aujourd'hui.
On a appelé Renaissance une période de la culture européenne où les grands genres de la littérature antique avaient disparu. Et on a donc prescrit, pour faire renaître la littérature à l'ancienne, de les imiter. D'où l'existence d'œuvres modèles. Mais même si certaines œuvres apparaissent plus nettement originales que d'autres, nous venons de voir qu'aucune œuvre n'est une pure création. La littérature se présente plutôt comme une immense chambre d'écho. Une immense chambre d'écho, ça aura été le titre de ma deuxième partie. Ceci ne signifie pas pour autant que le lecteur doit tout connaître pour l'apprécier. Alors à partir de là, je suis tout simplement en train d'élargir. De ce point de vue, toutes les réécritures ne sont pas analogues ou équivalentes. Certains s'affichent, d'autres pas. Certaines jouent sur la mémoire consciente du lecteur, d'autres sur sa mémoire inconsciente. On peut ainsi penser qu'elles sont surtout un moteur pour la création. Un écrivain écrit avec ce qu'il a aimé, ce qu'il a détesté, ce qui fait sens sur lui. Il a été lui-même un lecteur.
Merci beaucoup Hélène Merlin-Cageman pour cette dissertation qu'on aurait souhaité avoir dans son intégralité. Malheureusement, on n'en a pas le temps. Je rappelle que vous avez fait paraître en 2009 aux presses Sorbonne Nouvelle un ouvrage méthodologique intitulé « La dissertation littéraire ». Je le recommande. Je signale aussi votre dernier livre « L'animal ensorcelé, traumatisme, littérature, transitionnalité » paru en 2016 aux éditions Itac. Demain, un nouvel épisode de notre semaine spéciale bac consacrée à la princesse de Montpensier, nouvelle de Madame de Lafayette au programme des Terminales L. C'est Michel Vincent qui viendra nous en parler et parlera aussi de l'adaptation qui en a été faite pour le cinéma par Bertrand Tavernier. Mais tout de suite, c'est la poésie et c'est Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Quand on remue les braises pour un cinquantenaire de 68 encore bien vif, on tombe inévitablement sur Poésie Action, dont l'esprit libertaire de Serge Pey s'est fait un titre au Castor Astral, Poésie Action. Apprends à vivre entre le renard et le scorpion. Tout homme est à ce prix. Fais des nœuds de serpents et d'oiseaux. Tout homme est à ce lien. Deviens le désert en perdant ce qui nous poursuit. Tout homme est à ce piège. Trouve l'oasis et mène le mirage à boire dans le chameau. Tout homme est à cette soif. Poésie action, devenir un milliard de papillons dans un seul papillon. Construire des escaliers qui montent vers le grenier où toute la nuit dort dans une étoile d'araignée. Être poète, c'est aussi construire des pièges pour les mouches. Nos doubles ne craignent pas la chute lorsqu'ils se détachent de leur fil. Une inégalité tombe en tournoyant au-dessus du mur. Quand elle nous touchera, nous la renverrons à notre égalité. Si le papillon avait été en feu, l'immortalité aussi aurait brûlé. Les musiciens échangent leurs visages, mais jamais leurs instruments. Le coquelicot qui assomme la nuit s'endort ensuite auprès d'elle. J'écris sur des bâtons, dit Serge Pey, car la poésie est une marche et que le bâton rend la route plus aisée. Peut-être aussi le lointain écho de l'écriture bâton dans l'encrier disparu de l'école de mon premier poème. Il faut couper le bâton de noisetier en lune descendante en hiver, puis le peler avec un tesson de verre. Ensuite, on doit le rassembler avec une dizaine d'autres dans un fagot que je noue avec une ficelle au centre et aux deux extrémités de façon à ce qu'il reste bien droit. Après avoir fait sécher ces bâtons 6 mois pendus au plafond, je les dénoue et les polis. Ce n'est qu'après que je commence à les écrire avec des plumes métalliques et de l'encre. Poème à dire avec un oignon. Tout poème est un oignon. Enlève ses 1000 pelures et ses 1000 sens jusqu'au centre de peur et de pitié qui s'habille de toi. Les yeux entendent ce que nous avons à dire. Mes bâtons sont l'écriture visuelle de mon oralité. Ce sont des poèmes visuels, vocabulaire de mes installations. Ils sont la mise en espace de mon poème. Les publications livresques n'en sont que des tentatives de ressemblance ou de normalisation. Tout poème est une porte dont la condition de l'ouverture est sa fermeture majeure. Politesse de la poésie. Celui qui attend un invité dans sa maison doit frapper à sa propre porte pour inviter celui qui entre à entrer. Ouverture et fermeture majeure, exercice poème à réciter en entrant et en sortant d'une maison, est-il écrit. Si on répète un mot 10 fois de suite, on ne sait plus ce que ce mot désigne. Ne pas répéter la politesse, ni le couteau. Ne pas répéter la porte qui invite l'invité. Ne pas répéter le pas de celui qui sort, ni le pas de celui qui entre. Thank you.
Merci Jacques Bonafé pour ces lectures du poète Serge Pey.